L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Et c'est reparti pour une émission juste avant Noël avec Bernard Vacherot. La semaine dernière, on n'avait pas épuisé les stigmates.
Mais non. Alors, mon cher, tu veux absolument stigmatiser nos charmants et sympathiques auditeurs et nos ravissantes auditrices. Bon. Alors, on avait vu que Saint Paul avait complètement modifié la perception des stigmates. On passe du concept des religions antérieures classées comme païennes, quoique je me méfie du terme parce que en latin le mot païenne vient de paganus, qui signifie aussi bien paysan, agriculteur, que homme polythéiste, croyant en plusieurs divinités. Donc, de là à faire une assimilation systématique...
Vous voulez dire que ce qu'on appelle les fêtes païennes pourraient être juste des fêtes rurales?
Mais oui. Je vais prendre un exemple simple, puisque tu en parles. Bon, ce qu'on appelle les rogations, qu'on faisait autrefois, je me rappelle, hein, bon, enfin, ça là, la procession dans les champs où le prêtre bénit les champs, l'agriculture... Il faut penser que pendant toute une série de siècles, les gens n'avaient aucun autre moyen dans le monde agricole. Par exemple, les engrais n'existaient pas, etc. n'existaient pas. Bon, donc en dehors du fumier, on invoquait Dieu et les saints pour bénir les champs dans l'espérance que les champs produiraient. Il faut comprendre qu'ils étaient très pauvres et que donc... La terre était vraiment leur nourriture. Si elle ne produisait pas, ils crevaient de faim, au sens propre du mot. Hein. Bon, donc voilà. Eh bien, l'origine de cette bénédiction est une christianisation d'une ancienne fête romaine où on promenait les statues des divinités dans les champs. Or, en latin... tourner, se promener, se dit rogare. D'où le mot rogation dans la liturgie chrétienne. Alors, oui, on a christianisé d'anciens rites. Si vous voulez voir des visus la chose, vous allez sur la commune de Caylus, près de Saint-Amand-le-Vieux, au dolmen de Sayac, et vous verrez un dolmen gaulois ou celtique, comme vous voudrez, très intéressant, christianisé par une croix au-dessus. C'est symptomatique et révélateur. Hein.
Les solstices d'été, solstices d'hiver, c'est devenu Noël à la Saint-Jean.
Mais c'est dans la même eau.
Ouais.
C'est dans la même eau. Hein. Alors, désormais, sous l'influence de Saint Paul, les stigmates, non seulement ne sont plus perçus comme des signes infamants, mais au contraire sont intégrés par le christianisme comme des signes reliant les fidèles à la personne et à la vie du Christ dans sa mission salvatrice pour toute l'humanité. Et donc, les stigmates deviennent un signe de gloire et de sanctification. Plus tard, un homme appelé Procope de Gaza, en Palestine, dont on situe l'existence entre vers 470 à 538 après Jésus-Christ, et qui a été un grand rhéteur, c'est-à-dire qui faisait beaucoup de discours, etc., et d'exégèse biblique, spécialisé sur l'Ancien Testament, auteur d'un ouvrage sur le prophète Isaïe, ouvrage qui s'appelait « In Isaïe », c'est-à-dire en Isaïe, remarqua le fait qu'un des anciens usages chrétiens, usage devenu du fait des racines judéo-chrétiennes, les poussait à se faire pousser les gens à se faire tatouer sur le poignet et sur les bras des stigmates rappelant ceux du Christ sur la croix ou bien des monogrammes du Christ. D'ailleurs, soit dit en passant, je ferai aimablement remarquer que les peuples berbères d'Algérie étaient des peuples qui ont été christianisés. C'est par la suite qu'ils ont été islamisés. Or, que voyez-vous...
Sinon, on n'aurait pas eu Augustin.
Exact. Qu'en voyez-vous sur le front des femmes berbères de toutes petites croix? Et vous retrouverez ça en Syrie, avec ce qu'on appelle les Arabes salibes, c'est-à-dire les Arabes de la croix, qui ont été eux-mêmes chrétiens avant d'être islamisés, et qui, le jour de la fête de Pâques, badigeonnent sur les portes de leurs maisons et de leurs étables des croix avec le sang du mouton. Alors, il y a une relation avec l'agneau Christ Agnus Dei, agneau de Dieu. Vous voyez, il y a cette interprétation des religions qui est extrêmement curieuse. Hein. Alors, le monogramme du Christ, pour bien montrer leur attachement au Christ et à son enseignement, se distinguant ainsi des païens idolâtres. L'Église copte orthodoxe d'Égypte garde ainsi l'usage de marquer ceux qui le veulent de la croix imprimée au fer rouge. C'est assez douloureux, mais enfin bon, voilà. Hein. Donc, depuis saint Paul, à l'opposé de l'idée que l'on se faisait dans l'Antiquité sur les stigmates et dans l'Ancien Testament, les stigmates deviennent, alors à condition que leur authenticité spirituelle et non pas physiologique ou psychique, névrotique ou délirante, soient reconnus par l'Église, sont considérés comme des signes d'appartenance au Christ, voire d'élection par Dieu, du porteur ou de la porteuse de ces signes. À l'heure actuelle, l'Église, très prudente, exige à ce propos de sérieuses recherches et études scientifiques, médicales et psychologiques, voire psychiatriques et neurologiques, hein, avant d'autoriser à croire en ces signes, et encore n'oblige-t-elle personne à y croire, n'en faisant pas du tout un article de foi, même si elle a cru pouvoir déclarer ces signes comme crédibles. Crédible est un terme prudent qui dit « on peut croire », mais laisse aussi la possibilité de ne pas croire. Alors ce qui a poussé Paul, ce fut en fait qu'organisateur du christianisme, le Christ ayant été fondateur mais non organisateur, à reconnaître les stigmates comme acceptables, le terme est prudent pour le christianisme, fut le symbolisme des cinq plaies du Christ crucifié, reliant ce qui était marqué du Christ à sa résurrection et surtout au message de salut et d'espérance émanant de ce même personnage. Ceci marque, d'après les auteurs chrétiens, une rupture complète entre l'Antiquité et l'Ancien Testament et la conception qu'ils eurent de ces marques et celle du Nouveau Testament et de l'Église. Alors, faut-il être si tranché d'opinion à ce sujet? La réflexion nous amène à pouvoir en douter. Si, étudiant l'évolution historique des religions, on discerne la toile d'araignée ou la nébuleuse de leurs héritages se mélangeant les uns dans les autres, l'un cachant l'autre et l'autre révélant l'un, la vision chrétienne des stigmates ne nous fait pas bien au contraire oublier l'aspect sacrificiel prédestiné ou voulu par les dieux antiques, renouvelé par le Dieu unique de toute la Bible. Renouvellement opéré par le Christ lors de sa crucifixion, comme nouvelle, et le mot est significatif par lui-même, victime, en vue de notre salut à tous. Il existe donc des liens à approfondir et étudier entre les deux conceptions des stigmates, avec le nouvel état d'esprit de plus en plus orienté vers les sciences et le scepticisme intellectuel, où percent les prémices de doutes concernant Dieu, les dieux ou leur existence, naît une suspicion envers la religion et les phénomènes religieux, suspicion qui occasionna le fait que l'Église fut partagée entre la méfiance et la foi au sujet de croyances comme celles se rapportant à des questions comme les stigmates.
Neil Young, Heart of Gold, dans l'émission de Bernard Vacherot. Reprenons nos stigmates.
Eh bien, je suis très heureux d'entendre Neil Young dans le cadre de notre émission.
C'est mais pas tout mon... ça ne nous rajeunit pas. Hein.
Oh, dis donc, toi, parle pour toi si tu veux bien, d'accord? Bon. Alors, on évoquait l'importance des sciences et des évolutions scientifiques. Hein. L'histoire des sciences et des évolutions nous montre de tels indices oscillants entre des scepticismes avoués ou des scepticismes cachés ou larvés, dissimulés sous apparence de recherche. Quand je dis apparence, c'est pas du tout péjoratif, hein. De ce fait, apparut un certain tiraillement au sein même de l'élite pensante de l'Église, partagé entre la croyance à des choses comme ces stigmates et le rejet de ce type de croyance, assimilé aux antiques superstitions dites païennes. Ceci fit que l'histoire des stigmates de François d'Assise n'a pas fait l'unanimité du tout. À tort, Homer Engelbert, dans son ouvrage « Vie de Saint François d'Assise » chez Albin Michel, Paris, 1947, repris en 1972, parle-t-il avec un mépris condescendant de « certains rationalistes qui ont tenté d'en nier l'existence » et ajoute « ceux qui ne croient pas au surnaturel ». J'ai envie de dire à ce monsieur qu'il ignore le bien fondé scientifique du rationalisme et de ses rigueurs intellectuelles qui gênent les crédules des superstitions religieuses. Ce rationalisme, si critiqué par M. Homer Engelbert, perçait déjà dans la pensée de Platon, ce philosophe grec qui a vécu entre 428 et 348 ou 347 avant Jésus-Christ, et affirmait que si nous découvrons nos idées au contact de l'expérience, elles n'en procèdent pas moins de l'esprit et non simplement d'une habitude et d'une répétition des choses. Mais plus récent, Nicolas de Malebranche, philosophe cartésien français, ayant vécu à Paris entre 1638 et 1715 et ordonné prêtre en 1664, posa comme principe que toutes les vérités de la foi sont analysables, donc sujettes aux critiques de la science, et que l'on peut en acquérir un savoir parfaitement clair. Cette vision des choses eut son corollaire dans l'humanisme né durant la Renaissance avec le philosophe hollandais Erasme qui a vécu entre vers 1469 et 1536. De même, Guillaume Budé, français parisien, vivant entre 1467 et 1540, participant à la création du Collège de France, et enfin Michel de Montaigne, français périgourdin, qui vécut de 1533 à 1592 et fut ami du célèbre périgourdin Étienne de la Boétie, Sarladais, j'ai la fierté de le dire, et auteur du Contre I s'opposant aux tyrannies du pouvoir gouvernemental d'un seul, l'humanisme, donc d'Erasme, s'opposait, entre autres, au fanatisme religieux et aux superstitions. Donc on voit que certaines manifestations religieuses n'ont pas fait l'unanimité parmi les intellectuels de la Renaissance, tant à cette époque-là qu'au Moyen-Âge. Car le scepticisme de la Renaissance a pris ses sources dans l'univers de pensée du Moyen-Âge, qui lui-même prit racine chez les philosophes grecs de l'Antiquité comme Pyrrhon qui a vécu de 365 à peu près vers 275 avant Jésus-Christ, et Anésidème ou Anésidémos, un crétois du 1er siècle après Jésus-Christ, qui mit en forme les principaux arguments en faveur du scepticisme dans un ouvrage dédié aux dix tropes. Alors les tropes, qu'est-ce que c'est? C'était une manière d'employer les mots et expressions dans un sens figuré, si vous voulez, des métaphores ou métonymies. Alors si l'on n'oublie pas le fait que les savants du Moyen-Âge connaissaient les philosophes grecs anciens, on réalise qu'ils n'ignoraient rien du scepticisme et de ses courants de pensée et que donc ils savaient appliquer cela dans leurs analyses, même théologiques, de croyances, comme celles se rapportant aux stigmates, entre autres celles de François d'Assise, n'en déplaise à notre cher ami Homer Englebert, et à certains courants mystico-religieux du type, on va dire, ultra-conservateur, cela sans parler des courants de pensée purement athées et matérialistes, même antiques, et oui, car l'Antiquité a connu des athées et des matérialistes, comme par exemple le très matérialiste et atomiste grec, appelé Démocrite, qui, ayant vécu de vers 460 à 370 avant Jésus-Christ, puis l'épicurien Épicure, lui aussi grec, qui vécut de 341 à 270 avant Jésus-Christ, et enfin Lucrèce, le Titus Lucretius Carus, romain, qui vécut de vers 98 à 55 avant Jésus-Christ, et qui fut l'auteur d'un ouvrage appelé De natura rerum, c'est-à-dire de la nature des choses, dans lequel il se livre à une sévère critique des dieux et de la religion, en particulier dans le domaine de la mort et des croyances qui l'entourent. Alors l'on comprend pourquoi l'Église a admis ce type de manifestation comme croyable ou crédible, mais n'en a jamais fait un article de foi. Ici s'achève notre recherche concernant les stigmates de François d'Assise et leur épisode du 14 septembre 1224, tel que le narre Saint Bonaventure, qui vécut, je le rappelle, de 1221 à 1274, dans son ouvrage intitulé « Considérations sur les stigmates ».
Pour la semaine prochaine, tout le monde révise ?
Pour la semaine prochaine, on pourra réviser, mon cher ami.
Et ça sera l'année prochaine, donc on se souhaitera des bonnes années, mais il ne faut pas le faire à l'avance.
Joyeux Noël.
En attendant,
Bernard. Tu amèneras du champagne.
C'est cela, oui.
Tu amèneras des petits fours au foie gras.
C'est cela.
Avec un peu de saumon étalé sur des petits fours. Du caviar aussi.
Non, allez-y.
Et des jolies dames pour nous le servir.
Finissez votre liste.
Hein?
Joyeux Noël.
Merci.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.